Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur RTF 95,4 MHz. Vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte, avec au jazz et à la console, Francis. Bonsoir, Francis.
Salut, Jean-François.
Et musique classique et littérature.
Avec donc votre, Jean-François Biardot.
Voilà, votre serviteur. Alors, nous allons... alors, moi, j'ai porté plein de petits CD. Voilà, on écoutera du connu et du moins connu. On verra bien. Alors, il y aura bien entendu... beaucoup de morceaux de jazz et deux livres, alors deux livres qui ne sont pas absolument récents mais qui sont quand même qui ont quelques années. Donc un livre de Shmuel T. Mayer, une série de textes, il a intitulé sa nouvelle, alors ce sont des nouvelles sans en être tout à fait parce qu'il y a pas mal de choses autobiographiques. Et ce Shmuel Mayer, que je ne connaissais pas du tout, écrit remarquablement bien, et ça s'appelle « Les villes n'ont pas de toit », une série de textes dédiés à un certain nombre de villes qui peuvent être aussi bien Barcelone que Haïfa, que Paris, etc. Voilà. Et puis alors, un roman, le nom de l'auteur m'était sympathique a priori, puisqu'il s'agit de Eric Holder, est un petit peu connu, et il est surtout connu par un roman qui a été porté à l'écran qui s'appelle « Mademoiselle Chambon ». Avec Vincent Lindon, je crois, oui. Et Sandrine Kiberlin. Mm-hmm. Et c'est une jolie histoire. Alors là, ce n'est pas Mademoiselle Chambon, c'est Bella Ciao, mais c'est du même Eric Holder. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoutez, si on commençait par une page classique.
Eh bien, on va commencer par une page classique. Bah ouais. Alors, je vous propose, ce n'est pas le plus connu des musiciens classiques du 16e siècle. Hein? Bon. C'est Palestrina, 1525-1594, Pier Luigi da Palestrina, musicien italien, donc un musicien, j'allais dire, pré-baroque, et nous écoutons un extrait des Lamentations de Jérémie, qui font partie des offices de la Semaine Sainte. Voilà, interprété par un ensemble d'Amsterdam qui s'appelle le Amsterdam Leuk Stardust Quartet.
Thank you.
Alors voilà, c'était pas prévu les applaudissements,
mais c'est pour vous.
On les prend quand même. Merci Francis, ça fait toujours plaisir. Bon, vous voyez, c'est de la musique quand même très, très ancienne, avec les caractéristiques d'une musique antique, avec des cartes, etc., etc. Bon, alors, mais dans le jazz, il arrive bien qu'on fasse des cartes et des choses comme ça.
Oh là là. Et puis de la musique très ancienne, il y en a.
Oui. Demandez donc à Jean-Marie Masse.
Ah non, non, mais sans aller déranger le regretté Jean-Marie Masse, j'ai entre les mains un disque de Miles Davis de 1963. Jean-François, regardez, ça remonte. Hein.
Oui, puisque même Jean-Marie Masse aurait trouvé ça trop moderne.
Alors, voilà, j'ai ressorti de ma discothèque les Sketches of Spain de Miles Davis.
D'accord.
Cette période où il vivait en Europe et où il s'est intéressé au jazz français, mais aussi à la musique classique espagnole, et où avec Gil Evans, ils ont fait un certain nombre d'arrangements sur des thèmes classiques du 19e ou du 20e siècle espagnol. Alors, il y a sur ce disque, c'est très connu, la version de Miles Davis du concert d'Aranjuez, qui est tout à fait magnifique, mais c'est pas ce que nous écouterons aujourd'hui, parce que c'est assez long, ça dure, je crois, 15 ou 16 minutes, donc bon, il faut quand même que vous ayez le temps de présenter des livres.
Oui, oui, j'aimerais bien.
Alors, je vous propose d'écouter le morceau qui s'intitule Saeta. Thank you. il est l'heure de notre premier livre.
Alors, premier livre, donc, Eric Holder, je vous l'ai dit tout à l'heure, Bella Ciao, c'est donc Eric Holder qui est, si vous ne l'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu le film, d'ailleurs, était, je trouve, mieux réussi que le livre. Mais enfin, donc, Mademoiselle Chambon, une jolie histoire qui est presque un classique, et c'est un auteur assez, assez prolifique. Alors là, bon, alors c'est une histoire... quand on commence à voir l'intrigue se décider, on est vaguement agacé. Pourquoi ? Il s'agit d'un écrivain qui n'écrit plus depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu alcoolique, il s'est laissé aller, et il est avec une femme qu'il aime encore, mais qui commence à en avoir marre de ce qu'il ne fiche plus rien et de ce que ils boivent. Alors il a deux enfants, une grande fille qui est étudiante et un garçon qui sont des gens qui sont majeurs bien sûr. Et alors donc on se dit. Alors vous savez, moi je sais pas si vous faites ça, Francis. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Vous savez, d'aller voir dans les pages date de fin pour voir un peu. Ah moi je le fais.
Ah non je le fais jamais.
Alors moi je le fais tout le temps pratiquement. Bon, enfin bref. Donc là je l'ai fait et on se dit ah tu vas voir le coup qui va être sauvé par l'écriture.
Je le fais pour certains articles de presse.
Ah oui.
Je vais au dernier paragraphe.
Ah d'accord.
Parce qu'en général c'est là que les choses importantes se disent. Et puis si je trouve que c'est intéressant, je lis tout l'article.
D'accord.
Mais alors, pour les romans...
Alors moi, je suis un peu pareil.
Jamais.
Mais bon, alors là, je me dis, tu vas voir, il va être sauvé par l'écriture. Bon, alors, là-dessus, ça se passe dans le Médoc, à un endroit qui s'appelle Miéville-sur-Mer. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais enfin, on voit bien le genre, vous savez, voilà. Région assez charmante. Et alors, il est là, il a atterrit là, et puis sa femme Milena, et ben finalement le fout à la porte. Alors lui il trouve une maison qui est habitée par des Anglais, mais les Anglais en question doivent rentrer en Angleterre, et donc il lui propose de gardienner leur maison pendant qu'ils ne sont pas là. Bon, ce qu'il fait, alors ça lui fait au moins un endroit où coucher, et puis il cherche du boulot. Et alors, il travaille dans les vignes, et alors il plante les piquets, il aligne les fils de fer, etc. Alors, c'est l'occasion pour Eric Holder de nous submerger de vocabulaire technique sur l'art de planter. Alors, ça, je ne me rappelle plus, ça porte un nom, vous savez, les piquets de vignes, ils n'appellent pas ça des piquets de vignes, etc., etc. Alors, en plus, les pièces de vignes portent des noms. Alors, Laurence, Manon, etc. Alors, ce qui fait qu'assez vite, on n'y comprend plus rien. Il dit, nous rejoignons Manon. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, enfin, bref, voilà. Donc, il se trouve du boulot. Alors, c'est un peu, vous savez, à la fois une espèce de prolétarisation pour lui. Et puis, c'est un travail très dur. Donc, il a les mains en sang. Enfin, il a le dos en compote. C'est un travail très, très dur. Bon, et puis, finalement, on se rend compte qu'on espère qu'à la fin, Milena a rempli pour lui un dossier de demande de bourse d'écriture, et on sent bien qu'il va accepter et qu'il va faire ça, d'autant plus que Eric Holder nous indique que ce livre a été écrit avec l'aide du Centre National du Livre. Donc il y a un côté je raconte, etc., ça tourne plein. Non, c'est pas l'intérêt principal du livre, mais l'intérêt c'est que c'est très bien écrit, c'est très plein de notations très justes. Alors, je n'irai pas tellement sur le plan psychologique, parce que les personnages sont un peu taillés à la serpe. On les voit, enfin, le patron qui est assez brutal, qui méprise ses ouvriers, lesquels ouvriers ne sont pas très estimables non plus, qui sont souvent des ivrognes aussi, enfin bref. Mais l'intérêt, c'est le paysage, vous voyez cette zone du Médoc très jolie avec des vignes, des pins, le bord de mer, et c'est une évocation tout à fait agréable. Alors c'est un livre relativement court, ça fait 146 pages, ça se lit avec plaisir et ça s'appelle Eric Holder, Bella Ciao, et c'est édité au Seuil. Alors, vous avez reconnu, j'imagine, que c'était du Beethoven. C'est 1801, donc c'était la sonate numéro 4, opus 23, en la mineur. Alors là, c'est pas une indication bien intéressante, parce que ce qu'on a entendu n'était pas tellement en la mineur. Voilà, joué par Lisa Fertschmann. Oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consonnes. Fertschmann, voilà, au violon, et Inon Barnatan au piano.
Allez, un peu
alors,
de jazz.
Alors, un peu de jazz.
Alors, les frères Belmondo.
Oui. Chaque fois que je rigole.
Et ouais.
Mais oui. Alors, Jean-Paul et qui?
Mais non, alors, ils n'ont aucun lien, vous savez bien, ils n'ont aucun lien
de parenté
avec Jean-Paul Belmondo. Il s'agit de Lionel Belmondo, le saxophoniste, et de Stéphane Belmondo, le joueur de trompette et de bugle. Alors, je diffuse souvent leur disque parce que ce sont parmi les meilleurs musiciens de jazz en France. Mais figurez-vous qu'ils n'avaient pas fait de disque ensemble depuis plus de 10 ans. Et donc, il y a 2 ans, ils se sont retrouvés avec Eric Lénini au piano pour faire un enregistrement en quintette qu'ils ont appelé Brotherhood.
Oui, fraternité. Voilà.
Et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas en fait enregistré ensemble.
Donc ils étaient fâchés.
Non, pas du tout.
Une histoire d'héritage peut-être.
Écoutez, je l'ignore. Non, je ne crois pas qu'ils soient fâchés du tout. Mais bon, ils ont chacun une carrière et leur propre ensemble. Et de temps en temps, ils enregistrent avec leurs meilleurs copains en plus. Alors ça a donné un disque qui a été donc Brotherhood, qui a été unanimement apprécié par tous les amateurs de jazz, par toute la presse, et ils ont fait une tournée, et ils jouent ce répertoire de temps en temps encore 2 ans après. Et je vous propose d'écouter une composition qui s'appelle Wayne's World, qui est un hommage à Wayne Shorter. Thank you. Voilà, le Quintet Brotherhood des frères Belmondo.
Bon, eh ben c'est très bien. Un jour, là, vous nous passerez un beau morceau de bugle.
Ah ben oui, bien sûr, ouais, ok.
Moi, j'aime beaucoup le bugle comme instrument.
Je le note.
Voilà, très bel instrument, peu joué. Alors autrefois, on l'utilisait beaucoup dans la musique militaire.
Oui. Parce que ça porte. Hein,
ça porte pas tellement, mais en fait, c'est un instrument relativement facile.
Donc vous croyez que je pourrais encore l'apprendre malgré mon grand âge ?
Oh, mais Francis, vous pourriez apprendre le bugle sans aucun problème. Bon, à condition d'apprendre à penser en si bémol, parce que le bugle c'est en si bémol. Enfin bon. Bref, il y a toute une famille.
D'accord.
On parlera de ça une
si
autre...
Si vous nous parliez d'un bouquin plutôt.
Alors, d'un bouquin, alors les villes n'ont pas de toit de Shmuel Mayer. Alors Shmuel Mayer, il a vécu en France, il a vécu en Grande-Bretagne, il a vécu en Italie et il partage maintenant son temps entre Jérusalem et Genève, et donc il a publié déjà un recueil de nouvelles. Je pense qu'il est rabbin. Il y a des choses qui sont visiblement autobiographiques. Et alors, qui sont soit... alors, ce sont des petites histoires, mais c'est très bien écrit. C'est absolument agréable à lire. Une fois qu'on est entré dans la nouvelle, on va jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, c'est des nouvelles qui font 10 pages, 12 pages, donc c'est pas très difficile, mais quand même. Et alors il a le sens, ce qui est quand même important pour un auteur de nouvelles, de la chute. C'est important, une nouvelle, il faut raconter des trucs, oui. Il faut une chute. Quand il n'y a pas de chute, ça n'a aucun intérêt. Et alors lui, il a vraiment le sens de la chute. Alors par exemple, celle-ci, allez, je vais la divulgâcher, mais ce n'est pas grave. Donc ça se passe à Londres. Que je dise pas de bêtises. Oui, ça se passe à Londres. C'est une femme qui vient à un congrès. C'est une universitaire. Elle vient à un congrès qui se tient à Londres et elle va faire une communication sur la pensée de Maïmonide ou je ne sais quoi, enfin quelque chose comme ça. C'est une philosophe et une théologienne. Elle est plus toute jeune, elle n'est pas très vieille, mais elle est plus toute jeune. Et elle rencontre un homme un peu par hasard, commence à parler avec lui, etc. Se révèle qu'il est juif lui aussi. Bref, elle arrive pour faire sa communication et là, on lui explique que, je cite, l'association des professeurs avait voté une motion appelant au, ouvrez les guillemets, boycott des universités israéliennes complices de l'occupation et au soutien des professeurs britanniques à la juste lutte du peuple palestinien. Et on lui a envoyé la notification par email, mais elle ne l'a pas reçue, ou plutôt elle ne l'a pas lue, car elle était en train d'avoir une aventure. Elle était au lit avec ce juif qu'elle a rencontré et avec qui elle a eu une espèce d'attirance extraordinaire. Et puis finalement, il disparaît. Il disparaît. Elle ne sait pas du tout où il est passé. Elle se demande, elle attend son retour, allongée sur le lit. Et elle dit finalement, il lui a dit qu'il était aviateur. Elle l'attend. Et puis, finalement, elle quitte l'hôtel. Et puis finalement, elle part. Elle quitte Londres pour aller à Tel Aviv. Et l'avion a décollé, elle ouvre le journal et qu'est-ce qu'elle voit ? Le colonel YM a été arrêté hier par les autorités britanniques à la suite d'une plainte déposée par une association de défense des droits de l'homme pour sa participation au bombardement de Beyrouth. Ah. C'est celui qu'elle a rencontré. Ça fait une espèce de... c'est intéressant. Et vous voyez, on se dit... Où est-ce qu'il veut en venir ? Alors, c'est un portrait sensible, bien fait, d'une personne extrêmement vraisemblable et tout. et on voit à la fin. Alors voilà, il y a un texte sur Lausanne, il y a un texte sur Haïfa, et aussi le dernier texte qui est effroyable, c'est sur Oswiecim. Je sais pas comment on prononce, le polonais c'est très bizarre comme langue. Enfin, Oswiecim, c'est Auschwitz en polonais. Et c'est une série de lettres qui ont été trouvées, qui ont été jetées depuis un train qui amenait des déportés. Et qui disent, je sais pas si quelqu'un ramassera cette lettre, enfin, etc., etc. Tout ça est tout à fait émouvant et tout à fait terrible. Et alors, pour terminer, quand même, il cite une phrase de Borges qui dit, de toutes les villes du monde, de toutes les patries intimes qu'un homme cherche à mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la plus propice au bonheur. Ah voilà. En tout cas, moi je vous conseille de lire Shmuel Mayer, Les villes n'ont pas de toi, un recueil de nouvelles, c'est chez Gallimard et c'est un très bon livre. alors c'était une pièce que je trouve curieuse de François Couperin. Alors ça s'appelle Le Parnasse ou l'Apothéose de Corelli, 1724. Alors plusieurs parties. Corelli au pied du Parnasse, Corelli charmé par la bonne réception, Corelli buvant à la source, l'enthousiasme de Corelli, Corelli après son enthousiasme, les muses réveil Corelli, remerciement de Corelli. Voilà, c'était pas beau ça?
C'est très beau.
Voilà, donc c'est un ensemble qui a enregistré ça pour la radio néerlandaise. Un petit jazz quand même.
Allez, un petit jazz.
Laisse aller, c'est une valse.
C'est une valse. C'est par notre ami Cordéon. Et vous savez, ce musicien, accordéoniste et guitariste originaire du Portugal.
C'est celui qu'on avait vu à
et
la bibliothèque.
Et on l'a vu ensemble pendant le festival Éclat des Mailles il y a 2 ans, je crois, à la BFM de Laurence.
Extraordinaire.
C'était un très beau concert.
Très sympathique,
avec un public très varié, les gens qui habitent dans la ZUP de Laurence et qui vont à la médiathèque, des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des gens de toute nationalité, et puis ce trio qui était tout à fait sympathique et qui joue vraiment très très bien. Alors on écoute une valse composée par Cordéon qui s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai perdu, Mont-Louis Vals. Alors je ne sais pas quel est le Mont-Louis dont parle Cordéon. Peut-être que c'est le Mont-Louis dans les Pyrénées orientales. Allez savoir. Vous qui voilà, un fameux valseur.
Mais vous êtes bien sur RTF 95.4. Voilà. et alors, c'est quelqu'un qui fait une espèce de jazz music. Et je vous assure, pour y avoir assisté moi-même, pourtant je ne suis pas familier des concerts comme ça, mais c'était une ambiance formidable et un grand plaisir. Rappelez-nous le nom de cet artiste.
Cordéon.
Voilà. Personne ne s'appelle Cordéon.
C'est son nom d'artiste.
Bon, d'accord, allez, on va dire que c'est son nom.
Il est très connu, puis il fait une carrière tout à fait internationale.
Il le mérite.
On avait eu de la chance de le voir à Limoges, comme ça.
Bon, en tout cas, l'émission est finie. Ouais. Mais elle revient la semaine prochaine.
Évidemment.
20h-21h sur RTF 95.4. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bonsoir Francis et merci.
Salut Jean-François. Et à la semaine prochaine.
Mm-hmm.